Moi, je ne suis pas anticapitaliste. Je suis encore pire que ça. Je suis anti-industriel. Je ne veux pas d'une machine rouge. Je ne crois pas qu'une machine verte soit possible. Une machine verte n'est pas possible. Et je ne veux pas d'une machine rouge. Je ne veux pas de machine. On ne peut pas être écologiste si on n'est pas anti-industriel. Donc, dans l'ordre des idées, puisque nous nous battons sur des idées, enfin nous nous battons, je me bats que dalle, je me débat. Bon. Nous nous débattons sur la question des idées. Dans le domaine des idées, les gens comme nous, me semble-t-il, en tout cas moi c'est mon cas, je dis, je suis anti-industriel. Si vous voulez, si vous ne voulez pas cramer, il faut éteindre le feu. Bon, si vous voulez éteindre le feu, il faut déconstruire la société industrielle. Voilà.
On est confiné, on peut pas sortir, donc
on retient cette contrainte.
On va faire chier toute la nuit.
Enfin, si vous avez la petite explication de mots qu'on a fait au début, on a parlé de la volonté de puissance, de la volonté de toute puissance, de devenir comme des dieux, comme Dieu. Enfin, bon, donc, on peut dire que le transhumanisme, alors ça c'est encore, on va encore avoir un problème avec les marxistes, parce qu'ils vont nous dire, ah mais vous êtes anti-historique, vous êtes essentialiste, vous partez de l'idée que c'est naturellement l'humain qui est comme ça, l'humain qui veut être surhumain, qui veut être divin, qui veut être... quoi qu'il en soit, d'après ce qu'on en sait, moi je fais confiance aux scientifiques. D'après ce qu'on en sait, les hommes primitifs pensent que la puissance est en dehors d'eux. Et au début, ils pensent apparemment, d'après Durkheim, les formes primitives de la religion, etc., que c'est l'animisme, les sources, les arbres, les animaux sont habités par des esprits animés, souffle, nomo. Et puis après, ça devient un petit peu plus raffiné, un petit peu plus sophistiqué. Alors, c'est en dehors des choses de nature, mais ça agit sur la nature, sur le monde. Comme c'est en dehors, c'est au-dessus. Comme c'est au-dessus, c'est surnaturel. Et donc, on commence à croire au surnaturel, qui très rapidement prend un nom, on dit c'est le divin. Le divin, en fait, c'est juste le nom du surnaturel supérieur, hein. En tout cas pour les Indo-Européens. Divin, Dieu, c'est encore une racine indo-européenne. Pensez à Diurne, Dei, Zeus. C'est la divinité lumière du jour. Bon. Dieu, c'est la lumière du jour. C'est Diurne. Dieu est Dieu. Hein. Mais c'est lui le boss, c'est lui le patron, et c'est lui donc effectivement qui sépare les eaux d'en bas, du chaos, etc. Bon, tout ça. Et assez rapidement, c'est-à-dire quelques milliers d'années, les hommes se disent que le surnaturel, ils peuvent faire des prières, des sacrifices, ça mange pas de pain, on sait jamais, sur un malentendu, on peut s'entendre avec la divinité. Sacrifice humain, tout ça y va, quoi. Mais qu'il y a quelque chose qui peut-être remplacer le surnaturel, c'est l'artificiel. L'art. Donc les machines, hein, on retombe sur les machines moyennes. Bon. Au 19e siècle, on s'avise à l'époque de Darwin. Que les espèces n'ont pas été créées, qu'elles ont évolué, que ce n'est pas fixe. Et qu'en fait, que ce soit dans le domaine végétal ou dans le domaine animal, depuis très longtemps, les hommes élèvent les plantes et les animaux et les modifie. Le mouton, c'est pas naturel, hein. Il n'est pas né comme ça. La vache non plus, c'est un auroch, la bonne mine, et ainsi de suite. Bon, quand on compare une chaîne et un auroch, bon. Et
c'était mieux avant.
Et donc, les Anglais inventent le pédigré. Par exemple, pour les chevaux, ils ont un livre, le livre de pédigré pour les chevaux, pour les lévriers, les chiens, tout ça. Ouais. Et l'idée germe chez le cousin de Darwin, qui s'appelle Francis Galton, qu'on pourrait en faire pour autant pour les hommes, qu'on pourrait épurer la race pour aboutir à une race de sur-vaches, de sur-lévriers, de sur-chevaux, de sur-hommes. Bon, et donc il invente un terme là-dessus, ça s'appelle l'eugénie, l'eugénisme, eugénique. Encore du grec, eugène, le bien-né. Le génétique, etc. Eugène, c'est le bien-né, l'heureusement né, quoi. Bon. Il y a eu d'autres noms avant, on a dit viriculture, on a dit.
Aristogénie. C'est joli.
Aristo, c'est les meilleurs. Engendrement des meilleurs, et ainsi de suite. Enfin, il y a eu plusieurs essais, puis finalement, c'est l'eugénisme qui est resté. Et l'eugénisme, tout de suite, a été porté par les biologistes. Tous les biologistes, pratiquement, ont trempé là-dedans. Et dans la foulée, les généticiens. Quand je dis tous, c'est tous. Les cathos, les athées, les juifs, ceux de droite, ceux de gauche, les communistes, etc. Tous. Tous étaient des progressistes, tous ont voulu faire le surhomme. Avec chaque fois des raisons différentes. Celui qui était communiste, Aldan, c'était sur des bases tout à fait matérialistes. Celui qui était catho, il disait qu'il ne faisait qu'accomplir le dessein que Dieu avait mis potentiellement dans l'homme et que c'était impie de ne pas réaliser le dessein de l'homme, enfin de Dieu, etc., en collaborant à la voie divine. Ils avaient tous une bonne raison. Mais ils avaient tous une raison de faire cette chose-là, qui était de faire l'eugénisme. Alors, il y a un livre remarquable et très visible sur le sujet, c'est d'un historien des idées, d'un historien des sciences biologiques, qui s'appelle André Pichot, et ça s'appelle comment, La race pure.
Il y a un sous-titre,
mais... C'est en chant Flammarion. Hein, c'est bon. Et vraiment, ça vaut la peine de lire ce livre, parce qu'on s'aperçoit à quel point l'eugénisme est l'idéologie commune et partagée des biologistes, des généticiens, des scientifiques en général, des médecins, de la plupart des hommes politiques, ça va de Churchill. Bon. Et on voit comment dans toute l'Europe, ça commence, ça a commencé dans l'Indiana aux États-Unis, en Suède, en Suisse, au Japon, partout, il y a eu des lois eugénistes pour éliminer les trisomiques, stériliser les handicapés, etc. Enfin, c'était autoritaire. On stérilisait les criminels, les dévoyés, les homosexuels, ceci, cela. Et puis est arrivé les nazis, qui, comme d'habitude, sont un peu des trouble-fêtes. Ils gâchent un peu le truc parce que ils sont un peu nazis. Quoi. Enfin, les nazis sont un peu nazis, ils sont un peu radicaux. Et quand ils font un truc, ils le font bien. Donc ils ont commencé, ils ne se sont pas contentés de stériliser les handicapés, ils ont mis en place un truc qui s'appelait l'opération T4, et ils les ont exterminés. Ils les ont exterminés dans les endroits où ils étaient censés les soigner, en disant non, on va les soigner, on va les traiter. Et les handicapés mouraient dans ces endroits. Bon. Et au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'ils ne mouraient pas par hasard. Ceux qui en ont fait un scandale et qui ont permis que ça s'arrête, c'est l'Église catholique. Ce sont les catholiques, ce sont les évêques catholiques. Il y en a un en particulier, je ne me souviens pas de son nom. Les catholiques, on peut dire ce qu'on veut, mais ils sont cohérents. Quand ils disent on respecte la vie, ils respectent la vie. Ça commence au fœtus, ça se termine au tombeau. Bon. Donc, ils ne sont pas d'accord. Et ils le disent en chair, Et il y a une lettre pastorale qui circule, les curés la lisent, etc. Ça fait un scandale. Et finalement, le gouvernement allemand suspend ça. En 1942, il suspend ça. Hein? Bon. Et il y a des curés qui ont payé, hein, qui ont fini en camp. Mais ça avait permis de faire en quelque sorte un banc d'essai. Et suivant le même principe, à la conférence de Wannsee, on décide d'éliminer les autres sous-hommes. Donc les juifs, les tziganes, etc., etc. Et là, on ne le fait plus dans les endroits où on est censé les soigner, parce que c'était très hypocrite l'action T4. Hein. C'était dans des institutions, des trucs comme ça. Bon. On ouvre les premiers camps d'extermination. Et bon, vous connaissez la suite. Mais c'est toujours la catégorie sous-homme. C'est des sous-hommes. L'obsession, c'est la race pure. On élimine tout ce qui pourrait dévoyer la race. Hein. Donc, après-guerre, évidemment, ça pose un problème pour tous les eugénistes des pays démocratiques. Les Suédois, les Américains, les Britanniques, les Français, les Italiens, les Suisses, tout ça, tout ça. Ah, eugénisme, ah. Bon, on peut pas, ça, bon. Et la solution, c'est évidemment de changer de nom. C'est comme les boîtes maintenant, quand une boîte a beaucoup merdé, on change de nom. Hein? Plus personne ne sait ce que c'est que la Lyonnaise des Eaux, le Général des Eaux, ou je sais pas quoi. Elles ont changé de nom. Hop. Donc il faut changer de nom pour continuer à faire la même chose. Changer de nom pour continuer à faire la même chose. Et à ce moment-là, le premier directeur de l'UNESCO qui vient d'être créé, qui s'appelle Julian Huxley, qui est un biologiste éminent, ils sont tous biologistes dans sa famille, de père en fils depuis 3 générations.
Sauf son frère.
Qui est le frère de Aldous Huxley, le meilleur des mondes. Ce Julian Huxley, il est très copain avec un jésuite qui s'appelle Teilhard de Chardin. Et Teilhard de Chardin et Julian Huxley ont une idée géniale. Ils disent, non, mais eugéniste, pas bon, on ne va pas appeler ça eugéniste. On va appeler ça transhumaniste. Parce qu'on est humaniste, au fond. Mais trans, hein, comme, surtout pas transphobie. On est transhumaniste. Et donc, étant transhumaniste, hop, on a un mot nouveau, complètement innocent, qui lave plus loin. Et à partir de ce nom-là, va se reconstituer le mouvement eugénisme, qui en fait, nous on dit ça depuis 20 ans, puis au début on le disait presque un peu gêné, en disant putain, on pousse un peu le bouchon là. Moi j'ai dit depuis le début, sans connaître toute cette histoire, j'avais pas encore lu le bouquin de Pichot, le transhumanisme est un nazisme issu des laboratoires scientifiques. Et maintenant, je peux le dire fermement, argumentation à l'appui, le transhumanisme est le nouveau nom de l'eugénisme, et c'est un nazisme, enfin une idéologie raciste, raciale, issue des laboratoires scientifiques. Point barre.
Et pareil pour les animaux, l'élevage, et compagnie. Oui.
Mais donc, excusez-moi. Non, finalement, j'ai pas fini. Et donc, c'est pour ça aussi que depuis 2013, nous, PNRO, et quelques personnes courageuses, mais pas beaucoup, même dans le mouvement industriel, pas beaucoup, on a combattu fermement la PMA et la GPA et les manipulations génétiques. Et on a dit, on a fait un bouquin qui s'appelle « La reproduction artificielle de l'humain », où on a été attaqué par les mouvements queer, LGBT, etc., et de façon parfois
physique.
Presque physique, oui, bien sûr, et des appels à nous censurer, des appels à nous éliminer de... Bon, on a un compagnonnage avec les anarchistes, les libertaires, à nous éliminer de cette scène-là, etc. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont été fermes là-dessus, et de la même façon que je dis, on ne peut pas être écologiste si on n'est pas anti-industriel. Je dis, on ne peut pas être anti-industriel si on ne s'oppose pas à la reproduction artificielle de l'humain. Bon, on n'est pas beaucoup à le dire. Nos amis italiens de Resistenza al Mondo le disent. Ils sont vraiment, en plus, c'est des gens qui font un très beau travail. Et on a quelques copains à travers la France, à Lille, hors sol, à Bordeaux, les amis de Bartholomew, bon, puis quelques-uns, qui n'ont pas démérité en cette affaire. Et vous m'accorderez que la question de la reproduction de l'espèce, de la perpétuation de l'espèce, c'est tout sauf un point secondaire. Hein ? Je veux dire, ok, la façon dont on se nourrit, c'est important, la façon dont on s'habille, c'est important, la façon dont on travaille, c'est important. Il me semble que la façon dont on se reproduit, ça a son importance.
La réponse, c'est la puissance absolue. Bon, oui.
C'est la différence entre le planifié et le spontané. Et donc, enfin voilà, je ne vais pas me répéter.